Crédit Express, le prêt à la consommation de Banque Atlantique pour financer vos besoins ponctuels de trésorerie ou d'équipement vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient jusqu'à 9h temps universel. Dans 30 minutes, nous allons dresser ensemble le bilan des 100 premiers jours de Bassirou Diomaye Faye à la tête du Sénégal. Sa victoire dès le premier tour avait suscité beaucoup d'espoir auprès de la population. Lors de son discours d'investiture le 2 avril, il avait promis un changement systémique à la tête de l'État. Il s'était engagé à construire un Sénégal nouveau avec comme chantier prioritaire réconcilier la nation, lutter contre la cherté de la vie, contre la corruption ou encore redonner au pays sa souveraineté économique. Alors Bassirou Diomaye Faye tient-il ses promesses? Que vous inspire son début de quinquennat? Vous nous appelez, RFI vous donne la parole, 33 9 693 693 70 et vous avez encore une bonne demi-heure devant vous pour continuer à poster vos commentaires sur nos réseaux sociaux. J'en lirai évidemment quelques-uns pour alimenter le débat. Mais d'abord, vous le savez, c'est votre rendez-vous privilégié avec la rédaction de RFI, nos experts ici à Paris, en studio, nos envoyés spéciaux, nos correspondants, pour mieux comprendre l'actualité. On vous répond en direct et c'est ce que nous allons faire avec Innocent. Bonjour.
Oui, bonjour Juan Gomez.
Et merci de nous suivre à Yaoundé. Vous avez des questions sur la création de la Confédération des États du Sahel?
Évidemment, Juan. Alors, le premier sommet des dirigeants de l'Alliance des États du Sahel a débouché sur la création d'une confédération réunissant les trois États. Mmh. Alors, j'ai des questions à vous poser.
Oui.
Oui, ma première question, quels sont les objectifs du Burkina Faso, du Mali et du Niger?
Oui, les dirigeants de ces trois pays qui ont franchi effectivement une étape samedi avec la création de cette confédération. Bonjour Kaourou Magassa.
Bonjour Juan.
Journaliste au service Afrique de RFI, disons-le clairement, l'objectif de ces trois pays, c'est de renforcer leur coopération.
Oui, tout à fait, et surtout dans le domaine de la sécurité. Ça avait été annoncé dès septembre 2023, au moment de la création de l'Alliance des États du Sahel. L'objectif de ces trois pays est de mutualiser leurs forces et leurs moyens dans la lutte contre le terrorisme. Pour ce faire, une force conjointe entre les trois États a été mise en place après une rencontre en mars dernier des chefs d'état-major des trois pays. Des opérations conjointes ont fait l'objet d'une communication poussée, tout comme l'organisation d'exercices militaires communs. Un droit de poursuite des groupes terroristes au-delà des frontières de chaque État a également été institué, comme c'était le cas du temps de l'organisation du G5 Sahel. Enfin, et comme vous le savez certainement, ces trois pays ont opéré un virage à 180 degrés en faisant le choix d'une rupture avec la France, l'ancienne puissance coloniale, pour se rapprocher de la Russie et de la Turquie qui fournit des drones de combat. Ce changement de paradigme a entraîné l'arrivée des mercenaires d'Africa Corps, ex-Wagner, qualifiés d'instructeurs russes dans la région. Pour l'heure, cette stratégie n'a pas permis d'endiguer les nombreuses attaques djihadistes qui sévissent dans la zone. Les exactions de tous bords sont de plus régulièrement dénoncées par de nombreuses organisations de défense des droits humains.
Alors il y a certes le volet sécuritaire, mais les pays de l'Alliance des États du Sahel affichent également une volonté de se coordonner dans d'autres domaines régaliens.
Oui, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont, en marge du premier sommet de l'Alliance, affiché, je cite, la nécessité de coordonner leurs actions diplomatiques afin de parler d'une seule voix sur la scène internationale. Les trois pays affichent également une posture souverainiste et ont fait du choix de leurs partenaires stratégiques et financiers un principe non négociable. Sur le plan économique, les pays de l'AES ont indiqué ce samedi se concentrer sur la mise en place, sur la mise en œuvre, pardon, d'une politique économique et sociale endogène basée sur les ressources propres. La création d'une banque d'investissement a aussi été annoncée, ainsi que la mise en œuvre de projets de développement dans les domaines de l'agriculture, de l'assainissement et des infrastructures. Mali, Burkina Faso et Niger ont aussi rappelé leur décision irrévocable de se retirer de la CEDEAO.
Oui, nos peuples ont irrévocablement tourné le dos à la CEDEAO. Hein. Voilà ce qu'a déclaré samedi le général Tiani aux côtés du colonel Goïta et du capitaine Traoré. Le divorce est donc acté entre l'AES et la CEDEAO. Justement, Innocent, vous avez une question sur, on va dire, l'avenir des relations entre la CEDEAO et l'AES.
Évidemment. Ma deuxième question, les ressortissants de l'AES pourraient-ils toujours se déplacer librement dans l'espace de la CEDEAO.
Caro Magassa.
Alors pour le moment, innocent, je répondrai oui à votre question, car selon les textes de la CEDEAO, il reste encore un peu plus de 6 mois pour que le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger soit effectif. Il faut aussi rappeler qu'une mission de Beaux Offices menée par les présidents sénégalais et togolais pour faire revenir les pays de l'AES dans le giron de la CEDEAO est en cours. Mais les conséquences d'une rupture entre les deux blocs est à l'étude. En marge du sommet d'Abuja ce dimanche, Oumar Aliou Touré, qui préside la commission de la CEDEAO, a évoqué des risques d'isolement diplomatique et politique des trois pays et la possibilité pour les ressortissants de l'AES d'obtenir des visas pour voyager dans la région. Cette option est malgré tout peu probable. L'UMOA, l'Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest, qui concerne les pays de la zone franc, offre les mêmes avantages que la CEDEAO en termes d'intégration économique, financière et de libre circulation des biens et des personnes. Pour conclure, Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement de transition du Mali, a rappelé dans une interview accordée à la télévision d'État ou RTM que le retrait de la Mauritanie au début des années 2000 n'avait pas entraîné de conséquences sur la circulation de ses ressortissants dans l'espace CEDEAO.
Affaire à suivre et on aura l'occasion évidemment d'en parler. On en débattait déjà hier dans cette émission. On prolongera, à mon avis, puisque je vois le nombre de réactions qui nous arrivent, on prolongera la discussion vendredi dans la libre antenne. Innocent, a-t-on répondu à vos questions?
Très très bien, merci beaucoup. Et je voudrais saluer mes frères centrafricains qui présentent ici au Cameroun et mon papa qui est en Centrafrique aussi. Je vous remercie.
Eh bien, merci à vous de votre fidélité et on salue votre famille et vos amis donc, qui nous écoutent en Centrafrique. Merci beaucoup. À très vite, Kaoru Magassa.
À très vite, Juan.
10h17 à Paris. D'autres questions, on va parler football. On va revenir sur la condamnation de Samuel Eto'o par la Confédération africaine de football. Bonjour Henri.
Bonjour Anne et bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Oui, Juan, le jury disciplinaire de la CAF a condamné Samuel Eto'o à payer une amende de $200,000 dans l'affaire liée au Paris sportif. Je voudrais savoir pourquoi seulement la condamnation pour les affaires de Paris sportif et non pour les matchs truqués.
Ah, les matchs truqués. Une amende de $200,000 pour violation du code d'éthique. Bonjour Joël Wadem.
Bonjour Juan et bonjour à tous.
Vous êtes l'un des correspondants de RFI au Cameroun. Avant de répondre à Henri, rappelez-nous les faits, Joël. Pourquoi Samuel Eto'o a été convoqué devant le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football?
Alors Juan, c'est le 9 août 2023 que la CAF a annoncé dans un communiqué l'ouverture d'une enquête contre le président de la Fédération camerounaise de football pour des comportements inappropriés. En fait, la CAF donnait suite à des plaintes de certains acteurs du football camerounais. Ces derniers reprochaient à Eto'o, d'une part le trucage et la manipulation des matchs, ayant conduit à la montée en première division du club Victoria United, et d'autre part la signature d'un contrat à titre personnel avec une société de paris sportifs. Un acte en totale contradiction avec sa fonction de président de la FECAFOOT.
Et c'est donc à la suite de ces plaintes que le jury disciplinaire de la CAF a donc condamné Samuel Eto'o à cette amende de $200,000 pour les infractions liées au pari sportif. Je comprends la question d'Henri. Pourquoi a-t-il été condamné uniquement dans cette affaire et pas dans celle des matchs truqués?
Alors, nous avons pu obtenir une copie de la décision du jury disciplinaire de la CAF sur ces deux affaires. En ce qui concerne le trucage des matchs, le jury a reçu de l'accusation des enregistrements audio, vidéo et des mails. Mais elle a indiqué que la preuve de la manipulation des rencontres par Samuel Eto'o n'était pas établie en l'état.
Donc il a été blanchi. Il a été blanchi concernant cette affaire des matchs truqués.
Oui, il a été blanchi pour ce dossier. Maintenant, pour ce qui est du dossier sur le pari sportif, le jury a eu la preuve de la signature d'un contrat rémunéré entre Samuel Eto'o et une société de paris sportifs. Pour le jury, il s'agit d'une violation grave des principes d'éthique, d'intégrité et de sportivité édictés par les statuts de la CAF. C'est donc pourquoi Samuel Eto'o a été condamné à une amende de $200,000.
Effectivement. Voilà pour les explications de Joël Wadem. Henri, est-ce que vous avez une dernière question? Profitez-en. Joël
oui,
est avec nous.
Oui, Juan, je voudrais savoir si les années judiciaires sont terminées pour le président de la FECAFOOT.
Si les ennuis judiciaires sont terminés pour Samuel Eto'o, que peut-on dire, Joël?
Non, Juan, les ennuis judiciaires ne sont pas encore terminés parce que les avocats de Samuel Eto'o ont fait appel de la décision de condamnation de leur client à cette amende de 200 000 $. Ils ont notamment relevé que les faits reprochés à l'ancien attaquant du FC Barcelone ne résultaient pas d'une compétition organisée par la CAF, qui sont les seuls relevant du jury disciplinaire. Et puis, pour terminer, les acteurs du football camerounais qui avaient porté les deux affaires devant la CAF et la FIFA ont également, à travers leur avocat, fait appel lundi dernier de la décision du jury disciplinaire. Donc, c'est tout simplement dit que ce dossier est loin d'être bouclé.
Bon, on suivra ça avec vous. Les prochains rebondissements, Henri ?
Merci, Juan.
On a répondu à vos questions. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. Merci de votre fidélité et à très vite. Joël Wadem, correspondant de RFI à Yaoundé. 8h21 en temps universel. Toutes les explications de nos correspondants, de nos experts ici à Paris sont à réécouter à tout moment sur l'application RFI Pure Radio et des commentaires que vous pouvez également réécouter sur l'application WhatsApp. La chaîne WhatsApp RFI appelle sur l'actualité. On va repasser au standard. On va parler d'un bras de fer entre un archevêque et le pape François. Bonjour Edith Divin.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs de la RFI, bienvenue chez nous à Kinshasa.
Ah, Kinshasa, capitale de la RDC. Bien, on est ravis d'être ce matin, grâce au téléphone, dans votre ville, Edith Divin. Vous avez écouté RFI, vous avez appris une information qui vous interpelle.
Effectivement Juan Gomez. L'archevêque Carlo Maria Vigano a été excommunié par l'Église en raison de son opposition au pape François. Mm-hmm. Alors, j'ai trois questions quant à ça.
Allez-y.
Sur quel point l'archevêque oppose-t-il au pape ? Comment expliquer une sanction aussi lourde ?
Ah, sanction lourde, c'est vrai que c'est l'excommunication est une peine, une sanction très sévère. Hein. C'est rare d'ailleurs que le Vatican l'applique. Bonjour Frédéric Mounier.
Bonjour à tous.
Ancien correspondant du journal La Croix au Vatican, on vous doit une biographie du pape François, le pape qui voulait changer l'Église. C'est publié aux éditions presse du Châtelet. Faut, pour planter le décor, rappeler que ces dernières années, Mgr Vigano était devenu l'un des plus virulents opposants au pape François.
Oui, alors c'est effectivement l'un des plus virulents. Il faut rappeler que la sanction qui le touche est extrêmement rare, puisque la dernière excommunication d'un évêque remonte à 2006, c'était l'ancien archevêque de Lusaka en Zambie, Mgr Emmanuel Bilingo, qui lui-même s'était marié à une femme membre de la secte Moon, et cet homme avait décidé d'ordonner 4 prêtres mariés à Washington. C'est vous dire donc la lourdeur des contentieux à l'époque en 2006. Alors pour répondre précisément à votre question, Mgr Vigano était effectivement un haut fonctionnaire du Vatican, tout à fait bien noté, puisqu'il avait été nonce à Washington de 2011 à 2016. Il avait été nonce au Nigeria aussi à Lagos de 92 à 96.
C'est ambassadeur, hein, ambassadeur du
voilà,
Vatican.
Voilà, c'est ça, c'est oui. Exactement ambassadeur. Donc ce sont deux postes extrêmement importants dans la hiérarchie de l'Église catholique. Et puis de 2009 à 2011, sous Benoît XVI, il avait été secrétaire général du gouvernorat du Vatican. C'est-à-dire que c'était lui le directeur administratif et financier de la cité du Vatican. Et à l'époque, il avait lutté de façon tout à fait positive contre la corruption. Donc c'était un haut fonctionnaire plutôt bien noté jusqu'au moment où il a commencé à dériver.
Et dériver dans quel sens alors justement ? Expliquez-nous.
Eh bien écoutez, il a commencé à expliquer que le pape François ne faisait rien contre les abus sexuels. Il a accusé le pape François d'avoir couvert le cardinal McCarrick, qui était un cardinal américain qui lui-même a été condamné pour viol et pour abus sexuels. Mmh. Et puis assez rapidement, Mgr Vigano a dérivé à l'occasion de la crise du Covid. Il a dérivé vers le complotisme, l'antivax. Il a fait partie de tous les réseaux qui étaient favorables à Donald Trump. Oui. Et assez rapidement, il en est venu à dire que le pape n'était pas le pape, en quelque sorte. Il est devenu ce qu'on appelle cédé-vacantiste, c'est-à-dire qu'il a déclaré lui-même que le siège de Pierre n'était pas occupé et que le pape François était illégitime. C'est ainsi qu'il a déclaré très récemment « Je répudie, je rejette et je condamne les scandales, les erreurs et les hérésies de Jorge Maria Bergoglio,
c'est-à-dire oui, c'est le nom du pape, oui.
Voilà, qui a une gestion du pouvoir absolument tyrannique. Voilà. Oui. Et par ailleurs,
il a d'ailleurs appelé à la démission du pape François. Donc, au final, oui. Il a été excommunié. Ça signifie quoi en français facile?
Alors, excommunié, ça veut dire qu'il ne peut plus ni recevoir ni administrer les sacrements. Oui. Il ne peut plus célébrer des liturgies. Il ne peut plus accomplir aucun acte de gouvernement. Et vous avez raison de dire qu'il a appelé à la démission du pape. Il a déclaré encore récemment que le pape François soit jugé, ordonné et démis du trône qu'il occupe indignement depuis plus de 11 ans. Vous voyez, donc la charge est tout à fait lourde et on comprend que le pape François se soit quelque peu énervé.
Effectivement, et on comprend donc cette sanction particulièrement sévère du Vatican. Merci infiniment Frédéric Mounier et je renvoie nos auditeurs, à ceux qui s'intéressent au pape François, votre biographie, Le pape qui voulait changer l'Église. Édith Divin, bonne journée et merci de nous écouter à Kinshasa. On va terminer avec une question concernant l'Iran qui aura un nouveau président. Il a été élu, mais il prendra ses fonctions dans quelques semaines, ce sera de mémoire le 1er août. Bonjour Alseni.
Oui, bonjour et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Des questions donc sur le nouveau président iranien.
Effectivement, M. Gomez.
Allez-y.
Comment expliquer la victoire du candidat réformateur?
Ah, Massoud Pezeshkian, c'est son nom, effectivement. Il était d'ailleurs le seul candidat réformateur. Bonjour Nasser Etemadi.
Bonjour Juan.
Journaliste au service en langue persane de RFI, Alseni a l'air de s'étonner d'être surpris d'une victoire d'un candidat réformateur en Iran. Comment peut-on l'expliquer justement cette victoire?
Eh bien, je pense que pour y répondre, il faudra au moins poser trois questions. D'abord, quel a été pour le gouvernement iranien l'enjeu principal de cette élection anticipée qui a conduit à l'élection de Pezeshkian? Deuxièmement, quel lien entre cette élection et la crise de légitimité du gouvernement islamique? Et troisièmement, y a-t-il ou non un lien aussi entre cette élection et la succession éventuelle de guide iranien vieux et malade?
Alors, pour faire simple, il faut quand même préciser, Nasser Etemadi, que les autorités, elles ont reconnu que cette élection, elle a été marquée quand même par une forte abstention sans précédent depuis l'avènement de la République islamique.
Bien sûr, et pourtant pour le gouvernement iranien, le seul enjeu de cette élection a été cette fois, plus que la couleur politique de ses candidats, le taux de participation des électeurs qui aurait été à lui seul une sorte de plébiscite pour la République islamique.
Ouais. Je le disais en préambule, il était le seul candidat dit réformateur face à quatre candidats conservateurs. Est-ce que ça a joué justement dans sa victoire?
En fait, la présence d'un candidat présenté comme tel, comme réformiste, était censée dès le départ faire paraître une polarité politique susceptible d'attirer au maximum aux urnes les citoyens iraniens totalement désillusionnés depuis des années quant à la possibilité de réformer quoi que ce soit dans le cadre de la République islamique et surtout moyennant les élections contrôlées sous une théocratie. Mais le stratagème, force est de constater, risque de tourner court. Et ce désormais président réformiste ne fait d'emblée qu'apparaître un chemin déjà parcouru depuis presque 30 ans et voué malheureusement à l'impasse, surtout après l'échec de deux scénarios semblables. Je pense à Mohammad Khatami et de Hassan Rouhani qui ont aussi prêché le dialogue et la normalisation des relations avec l'Occident pour régler les problèmes internes et notamment celui des sanctions internationales.
Ah oui, puisque donc, rappelons-le qu'il a notamment été élu, en tout cas c'était dit pendant la campagne, avec cette volonté d'obtenir la levée des sanctions économiques qui étouffent le pays. Il veut donc sortir l'Iran de l'isolement. Ça signifie peut-être renouer le contact forcément avec les Occidentaux. On verra quelle sera sa marge de manœuvre. Ce sera un des défis à relever pour ce nouveau président qui entrera en fonction, prêtera serment donc le mois prochain. Merci infiniment Nasser Etemadi, journaliste au service en langue persane de RFI. Alseni, très bonne journée à vous. Vous restez évidemment à l'écoute de RFI. On va retrouver l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'RFI Matin et on revient tout de suite après pour dresser le bilan des 100 premiers jours de...